Daphnis et Chloé, livre 2. Étant jeune, l'automne en sa force et le temps des vendanges venu, chacun au champ était en besogne à faire ses apprêts. Les uns racoutraient les pressoirs, les autres nettoyaient les jarres. Ceux-ci émoulaient leurs serpettes, ceux-là se tissaient des paniers. Aucun mettait à point la meule, appressurait les plaisirs écrasés. D'autres apprêtaient l'osier sec, dont on avait ôté l'écorce à force de le battre, pour en faire flambeau à tirer le mou pendant la nuit. Et à cette cause, Daphnis et Chloé, cessant pour quelques jours de mener leurs bêtes au champ, prêtaient à tels travaux l'œuvre et labeur de leurs mains. Il portait, lui, la vendange, dedans une hotte, et la foulait en la cuve, puis aidait à remplir les jarres. Elle, d'autre côté, préparait à manger aux vendangeurs et leur versait du vin de l'année précédente. Puis elle se mettait à vendanger aussi les plus basses branches de vignes où elle pouvait avenir. Car les vignes de Lesbos sont basses pour la plupart, au moins non élevées sur arbres fort hauts, et les branches, en pendant jusque contre terre, s'étendant çà et là comme lierre, si qu'un enfant hors du maillot, par manière de dire, atteindrait aux grappes. Et comme la coutume étant telle faite de Bacchus à la naissance du vin, on avait appelé des champs de l'alentour bon nombre de femmes pour aider, lesquelles jetaient toutes les yeux sur Daphnis, et en le louant, disaient qu'il était aussi beau que Bacchus. Et il y en eut une d'elles, plus éveillée que les autres, qui le baisa, dont il fut bien aise, mais non Chloé, qui en avait de la jalousie. Les hommes, d'autre part, dans les cuves et pressoirs, jetaient à Chloé plusieurs paroles à la traverse, et en la voyant, trépignaient comme des satyres à la vue de quelques bacchantes, disant que, de bon cœur, ils deviendraient moutons pour être menés et gardés par telle bergère. À quoi Chloé prenait plaisir. Mais Daphnis en avait de l'ennui, tellement que l'un et l'autre souhaitaient que les vendanges fussent bientôt finies pour pouvoir retourner au champ à la manière accoutumée et, au lieu du bruit et des cris de ces vendangeurs, entendre le son de la flûte ou le bêlement des troupeaux. En peu de jours, tout fut achevé, le raisin cueilli, la vendange foulée, le vin dans les jarres, si qu'il ne fut plus besoin d'en empêcher tant de gens. Au moyen de quoi, ils recommencèrent à mener leurs bêtes au champ comme devant, et portant aux nymphes des gracques pendantes encore au sarment pour prémices de la vendange, les vinrent en grande joie honorer et saluer, de quoi faire ils n'avaient par le passé jamais été paresseux. Car et le matin, dès que leurs troupeaux commençaient à paître, ils les venaient d'abord saluer, et le soir, retournant de pâture, ils allaient de rechef adoré, et jamais n'y allaient qu'ils ne leur portassent quelque offrande, tantôt des fleurs, tantôt des fruits, une fois de la ramée verte, et une autre fois quelques libations de lait, dont, puis après, ils reçurent des déesses bien ample récompense. Mais pour lors, ils folâtraient comme de jeunes levrons. Ils sautaient, ils flûtaient ensemble, ils chantaient, luttaient bras à bras l'un contre l'autre, à l'envi de leurs béliers et bouquins. Et ainsi comme ils s'ébattaient, survint un vieillard, portant grosse cape de poil de chèvre, des sabots en ses pieds, panetière à son col, vielle aussi la panetière. Se séant auprès d'eux, il se prit à leur dire: le bonhomme fit l'état, sans France et moi, qui jadis ai chanté maintes chansons à ces nymphes, maintes fois ai joué de la flûte à ce dieu Pan que voici, grand troupeau de bœufs, gouvernez avec la seule musique, et m'en viens vers vous à cette heure, vous déclarer ce que j'ai vu, et annoncer ce que j'ai oui. Un jardin est à moi, ouvrage de mes mains, que j'ai planté moi-même, affié, accoutré, depuis le temps que, pour ma vieillesse, je ne mène plus les bêtes au champ. Toujours il y a dans ce jardin tout ce qu'on y saurait souhaiter, selon la saison. Au printemps, des roses, des lys, des violettes simples et doubles. En été, du pavot, des poires, des pommes de plusieurs espèces. Maintenant qu'il est automne, du raisin, des figues, des grenades, des myrtes verts, et y viennent chaque matin à grandes volées toutes sortes d'oiseaux, les uns pour y trouver à repaître, les autres pour y chanter, car il est couvert d'ombrage, arrosé de trois fontaines et si épais planté d'arbres que quiconque ornoterait la muraille qui le clôt, on dirait à le voir que ce serait un bois. Aujourd'hui, environ midi, j'y ai vu un jeune garçonnet sous mes myrtes et grenadiers qui tenait en ses mains des grenades et des grains de myrte blancs comme lait, rouges comme feu, polis et nets comme ne venant que d'être lavés. Il était nu, il était seul et se jouait à cueillir de mes fruits comme si le verger eût été sien. Si m'en suis couru pour le tenir, crainte, comme il était frétillant et remuant, qu'il ne me rompît quelque arbuste, mais il m'est légèrement échappé des mains, tantôt se coulant entre les rosiers, tantôt se cachant sous les pavots, comme ferait un petit perdreau. J'ai autrefois eu bien affaire à courir après quelques chevreaux de lait, et souvent, ai travaillé, voulant attraper de jeunes veaux qui sautaient autour de leur mère. Mais ceci est tout autre chose et n'est pas possible au monde de le prendre. Par quoi, me trouvant bientôt là, comme vieux et ancien que je suis, et m'appuyant sur mon bâton, en prenant garde qu'il ne s'enfuit, je lui ai demandé à qui il était de nos voisins et à quelle occasion il venait ainsi cueillir les fruits du jardin d'autrui. Il ne m'a rien répondu, mais, s'approchant de moi, s'est pris à me sourire fort délicatement en me jetant des grains de myrte, ce qui m'a, ne sais comment, amolli et attendri le cœur, de sorte que je n'ai plus su me courroucer à lui. S'il est prié de s'en venir à moi sans rien craindre, jurant par mes myrtes que je le laisserais aller quand il voudrait, avec des pommes et des grenades que je lui donnerais, et lui souffrirais prendre des fruits de mes arbres et cueillir de mes fleurs autant comme il voudrait, pourvu qu'il me donnât un baiser seulement. Et donc, se prenant à rire avec une chère huguette et bonne et gentille grâce, m'a jeté une voix si aimable et si douce que ni la rondelle, ni le rossignol, ni le cygne, fût-il aussi vieux comme je suis, n'en serait jeté de pareil, disant « Quant à moi, Philétas, ce ne me serait point peine de te baiser, car j'aime plus être baisé que tu ne désires, toi, retourner en ta jeunesse. Mais garde que ce que tu me demandes soit un don malséant et peu convenable à ton âge, pour ce que la vieillesse ne t'exemptera point de me vouloir poursuivre quand tu m'auras une fois baisé, et ni à aigle, ni faucon, ni autre oiseau de proie. » Tant est-il l'aile vite et légère qui me put atteindre. Je ne suis point enfant, combien que j'en ai l'apparence, mais suis plus ancien que Saturne, plus ancien même que tout le temps. Je te connais dès lors qu'étant en la fleur de ton âge, tu gardais en ce prochain pâti un si beau et gras troupeau de vaches, et étais près de toi quand tu jouais de la flûte sous ses hêtres, amoureux d'Amarylide, mais tu ne me voyais pas, encore que je fusse avec ton amie, laquelle je t'ai enfin donnée, et tu en as eu de beaux enfants, qui maintenant sont bons laboureurs et bouviers. Et pour le présent, je gouverne Daphnis et Chloé, et après que je les ai le matin mis ensemble, je m'en viens en ton verger, là où je prends plaisir aux arbres et aux fleurs, et me lave en ces fontaines, qui est la cause que toutes les plantes et les fleurs de ton jardin sont si belles à voir, pour ce que mon bain les arrose. Regarde, si tu verras pas une branche d'arbre rompue, ton fruit aucunement abattu ou gâté, aucun pied d'herbe ou de fleur foulée, ni jamais les fontaines troublées, et te réputes bien heureux de ce que toi seul, entre les hommes, dans la vieillesse, tu as encore bien voulu de cet enfant.
Cela dit, il s'est enlevé sur les myrtes, ne plus ne moins que ferait un petit rossignol, et sautant de branche en branche, par entre les feuilles, est enfin monté jusque à la cime. J'ai vu ses petites ailes, son petit arc et ses flèches en écharpe sur ses épaules, puis était tout ébahi que je n'ai plus vu ni ses flèches ni lui. Or, si je l'ai, pour n'ayant vécu tant d'années, et diminué de sens en avançant d'âge, mes enfants, je vous assure que vous êtes tous deux dévoués à l'amour et que amour a soin de vous.
Ils furent aussi aises d'ouïr ce propos comme si on lui eût conté quelque belle et plaisante fable. S'ils lui demandèrent que c'était amour, s'il était oiseau ou enfant, et quel pouvoir il avait. Ah donc, Philétas se prit de rechef à leur dire
« Amour est un dieu, mes enfants. Il est jeune, beau, a des ailes. Pourquoi il se plaît avec la jeunesse, cherche la beauté et ravit les âmes, ayant plus de pouvoir que Jupiter même. Il règne sur les astres, sur les éléments, gouverne le monde et conduit les autres dieux comme vous avec la houlette menez vos chèvres et brebis. Les fleurs sont ouvrage d'amour, les plantes et les arbres sont de sa facture. C'est par lui que les rivières coulent et que les vents soufflent. J'ai vu les taureaux amoureux, ils mugissaient ne plus ne moins que si le temps les eût piqués. J'ai vu le bouquin aimer sa chèvre, et il la suivait partout. Moi-même, j'ai été jeune et j'aimais Amaryllide, mais alors il ne me souvient de manger ni de boire ni ne prenait aucun repas. Mon âme souffrait, mon cœur palpitait, mon corps tressaillait, je pleurais, je criais, comme qui m'eût battu. Je ne parlais non plus que si j'eusse été mort, je me jetais dans les rivières, comme si un feu m'eût brûlé. J'invoquais Pan, qui fut aussi blessé de l'amour de Pitis. Je remerciais Écho, qui appelait Amaryllide auprès de moi, et de dépit rompait ma flûte de ce qu'elle savait bien mener mes vaches et ne me pouvait faire venir mon Amaryllide, car il n'est remède ni breuvage quelconque, ni charme, ni chant, ni parole qui guérisse le mal d'amour. Sinon, le baiser, embrasser, coucher ensemble, nu à nu.
Philétas, après les avoir ainsi enseignés, se départit avec eux, emportant pour son loyer quelques fromages et un chevreau d'aguet qu'ils lui donnèrent. Mais quand il s'en fut allé, eux demeurés tout seuls, ayant alors pour la première fois entendu le nom d'amour, se trouvèrent en plus grande détresse qu'auparavant, et retournés en leur maison, passèrent la nuit à comparer ce qu'ils sentaient en eux-mêmes avec les paroles du vieillard. Les âmes en souffrent, nous souffrons. Ils ne font compte de boire ni de manger, aussi peu en faisons-nous. Ils ne peuvent dormir ni nous clore la paupière. Il leur est arrivé qu'ils brûlent et nous avons le feu au-dedans de nous. Ils désirent s'entrevoir, las, pour autre chose. Nous prions que le jour revienne bientôt. C'est cela, sans point de doute, qu'on appelle amour. Tous deux sommes en amourés, si nous ne le savions pas. Mais si cet amour, ce que nous sentons, je suis aimé, que me manque-t-il donc? Et pourquoi sommes-nous ainsi mal à notre aise? À quoi faire-nous, entre cherchons-nous? Philétas nous dit vrai, ce jeune garçon qu'il a vu en son jardin. C'est lui-même qui jadis apparut à nos pères et leur dit en songe qu'il nous envoyasse garder les bêtes aux champs.
Et comment le pourra-t-on prendre? Il est petit et s'enfuira. De lui échapper n'est possible, car il a des ailes et nous atteindra. Faut-il avoir recours aux nymphes? Pan aida de rien Philétas quand il aimait Amaryllide. Alors essayons les remèdes qu'il a dit, baiser, accoler, coucher nu à nu. Vrai qu'il fait froid, mais nous l'endurerons.